Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Ni chaud ni froid. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons le dessinateur Olivier Jaminon.
Bonjour. Bonjour.
Et la touche à tout Aurélie Boudard. Bonjour.
Bonjour.
Olivier, vous pouvez vous présenter un petit peu ?
Ben, je suis Olivier Jaminon, j'habite à Arlon et je fais de la bande dessinée pour le moment, oui. Je suis maintenant pensionné. Ce qui me permet d'avoir du temps donc pour dessiner.
Aurélie ?
Oui, moi je suis Aurélie Goudard, je suis donc, comme vous l'avez dit, touche à tout artistique. Je suis violoniste, chanteuse et comédienne, et je suis dans le Brabant wallon, j'habite à Wavre.
Merci à vous deux. Bienvenue dans l'émission. Nous allons commencer par Olivier Jaminon. Vous avez l'honneur de commencer. Vous êtes issu d'une famille de dessinateurs, Olivier Jaminon. Comment le dessin est-il si présent dans votre famille ?
En effet, c'est une famille de dessinateurs. Le dessinateur le plus représentatif, c'était papa, qui était professeur à l'Académie des Beaux-Arts à Liège. Autrement, mon frère. Benoît a aussi une activité dans la bande dessinée avant qu'il ne disparaisse, mais on peut aussi remonter plus loin. Je pense qu'on pourrait imaginer que ma grand-mère avait fait des études de beaux-arts en parallèle de ses formations et elle faisait partie d'un monde artistique puisqu'elle appartenait à la famille Plonté. Voilà.
Et vous pouvez expliquer, c'est quoi Plonté,
la famille Plonté? Ben c'est un, Léopold Plonté est un peintre qui a fait partie du groupe Cobra et qui est fort bien connu en Belgique, représenté dans les musées, et son frère aussi peignait d'autres choses. Donc c'était aussi une famille artistique. J'ai aussi plein de cousins qui font de la peinture. Qui dessine régulièrement, voilà.
Aurélie, quelque chose à rajouter par rapport à ce que Olivier Jaminon vient de dire ?
Oh, bien, je suis ravie de découvrir l'univers d'Olivier. Voilà, je crois qu'on a quelques points communs dans nos apports artistiques et un entourage familial propice.
C'est nécessaire.
Tout à fait.
Voilà.
Olivier, pourquoi êtes-vous tourné vers le dessin ?
Ben, disons que quand je suis entré aux Beaux-Arts, donc où j'ai fait Saint-Luc à Liège, papa avait été professeur dans cette école-là. Il était à ce moment-là professeur à l'académie. Il y a eu un petit problème parce que les deux écoles étaient en concurrence. Mmh. Mais j'ai fait le choix d'aller plus vers l'illustration, la bande dessinée. Et disons que c'était, à mon sens, l'endroit le meilleur pour avoir une bonne formation. Et c'était à peu près l'époque où mon frère Percé, c'est à ce moment-là qu'il a publié un mini-récit, par exemple, dans le journal Spirou.
Vous avez beaucoup appris ? Par rapport à vos études, ça vous a apporté quelque chose ?
Les études de Beaux-Arts sont utiles, oui. Oui, bien sûr. Entre autres, on a une très bonne formation. Je suis très content d'avoir... J'étais comme un poisson dans l'eau, puisqu'on avait 10 heures de croquis d'attitude par semaine, ce qui a formé... c'était quelque chose que je... pratiquais naturellement, mais j'étais très... j'aimais bien capter les dessins sur le vif, et donc ça reste, oui. Et puis on utilise toujours les croquis ou les études de sa période d'études, on continue à les utiliser par après.
Aurélie, un mot à dire ?
Oui, ben voilà, les études, effectivement, hein, c'est un apport important, une découverte approfondir un petit peu, en fait, nos passions. Des rencontres extraordinaires, l'éveil à notre futur métier, nos futures passions.
Et d'excellents professeurs aussi, sans doute, voilà.
De moi ?
Je ne sais pas, mais non, je parle pour moi, mais sans doute c'est la même chose aussi.
Oui, certainement.
Voilà.
Olivier, pendant vos études, est-ce qu'il y a des dessinateurs connus maintenant qui ont été dans la même classe que vous?
Oui. Le plus connu est Michel Constant. Il a reçu de nombreux prix pour ses bandes dessinées, par exemple la série Bitume, mais il avait fait aussi Mille et Milia, et il a fait de nombreuses séries. C'est à peu près le seul qui est vraiment fait de sa passion un métier, mais c'était aussi un des plus forts. Je pense que d'autres, il y en a eu d'autres qui ont publié des bandes dessinées, comme Didier Bourguignon et comme Jacques Bourse. Donc, voilà.
Aurélie ?
Oui ?
Quelque chose à rajouter par rapport à ce que vous venez de dire ?
Pour l'instant, je suis toute ouïe, en tout cas.
Olivier, que vous apporte la bande dessinée ?
C'est surtout le plaisir de les faire. Le plaisir de les faire, là. L'intérêt intellectuel et le plaisir de raconter des histoires en images.
Olivier, nous allons choisir une chanson qui définit votre univers de BD.
J'aurais pensé à Sweet Angel de Jimi Hendrix.
Et pourquoi?
À cause de la bande dessinée le premier épisode de Morgan. Qui parle d'un ange. Voilà.
Aurélie, nous allons l'écouter. Et aux auditeurs de Radio Sud, vous êtes prête?
Tout à fait. Hâte d'écouter ça.
Nous allons passer. Après l'écoute de cette chanson, nous allons passer à l'interview d'Aurélie Goudard. Aurélie, vous êtes violoniste et faites partie des troupes Ochala et Saltaris. C'est bien ça?
Ochalaï, oui.
Ochalaï. Mais pourquoi autant de troupes, en fait?
C'est beaucoup de projets différents. Et c'est vraiment pour diversifier, pour partager le plus possible ma passion. J'adore même de changer de style de projet, et même en peu de temps. Donc, par exemple, sur un week-end, de pouvoir avoir un soir faire de la musique zygène, le lendemain faire du théâtre, le surlendemain de la musique baroque ou accompagner quelqu'un en chanson française. Enfin, c'est la variété, moi, qui me plaît aussi dans ce métier, c'est de pouvoir aller un peu dans tous les sens où on ne s'ennuie jamais, en définitive.
Une touche à tout artistiquement.
Voilà, c'est ça.
Olivier.
Principalement sur scène, hein, mais...
Oui.
Ce n'est pas les talents d'Olivier de dessinatrice.
Un commentaire, Olivier?
Je pense qu'on a des affinités en musique, mais effectivement, la musique, c'est aussi beaucoup de variété, et c'est ça qui fait l'intérêt. On ne reste pas... il ne faut pas rester...
cantonné
à un seul domaine, oui.
Oui, bien sûr.
Déjà, la musique, pour être bien faite, doit savoir faire danser, rire, pleurer...
Toutes les émotions.
Voilà,
c'est ça. D'exprimer toutes les émotions. C'est vrai que la scène aussi, la musique, le chant, la danse, c'est vraiment le premier langage de l'humain, en fait. Hein, de charger d'émotions, de pouvoir sortir les émotions, c'est vraiment important.
Mais Aurélie, vous ne faites pas de la danse?
Non, je ne fais pas de la danse quand même. Maintenant, par contre, sur scène, je ne suis pas du tout dans un milieu... très statique, je ne suis pas assise dans un orchestre ou quoi, on est vraiment amené à pouvoir se déplacer sur scène, aussi bien en tant qu'actrice, mais en tant que musicienne aussi, c'est pas du tout statique.
Et pourquoi êtes-vous tournée vers la musique?
Oh, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, je crois que mes parents étaient passionnés de musique, d'art en général. Pas du tout porté sur les sports et voilà, ou les scouts ou quoi. Et donc en fait, on m'a inscrit à 4 ans à des cours de violon plutôt qu'un cours de tennis.
Mais par exemple, comme Olivier, vous n'avez pas de la famille qui vient du domaine de artistiquement?
Pas vraiment professionnellement, mais j'avais mes deux grands-pères. Mon grand-père paternel était violoniste aussi. Donc voilà, on a été retrouver son violon dans le grenier quand j'étais petite. Mon papa m'a accompagnée du coup au violon pendant toute mon enfance, a suivi les cours avec moi et on a joué ensemble toute mon enfance. Mon grand-père maternel, était un espèce de génial pianiste qui accompagnait toutes nos soirées de familial, il se mettait au piano avec ses amis, il se mettait à chanter, il accompagnait tout le monde, donc c'était toujours très joyeux. On arrivait le jour de notre anniversaire au son du piano, qui voilà, avec le bon anniversaire, c'était les premières choses, les premières notes qu'on entendait quand on rentrait dans la maison de mes grands-parents. Voilà.
Est-ce que vous utilisez son violon pour penser à lui, par exemple, votre grand-père?
Ah, bien sûr, je pense que c'est vraiment une sorte d'hommage aussi.
Hommage, oui.
Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours porté, qui m'a toujours... Je me souviens, quand j'étais petite, j'apprenais certaines choses comme ça au cours de violon, puis j'arrivais chez mes grands-parents après mes cours, et je reproduisais tout ce que je faisais au violon sur le piano, à une main, mais voilà, c'est vraiment passionnée, quoi. Passionnée de ça, et portée par la famille, en tout cas.
Olivier, vous voulez rajouter ce qu'elle vient de dire?
Non, je pense qu'effectivement, pour faire de la musique, il faut être dans un milieu musical. Et effectivement, il y a une nécessité, un peu d'apprentissage. On peut avoir une... Enfin, ça dépend, mais on peut avoir une oreille naturellement. Mais il y a quand même toute une grammaire à apprendre qui est nécessaire. Le genre solfège, etc.
Aurélie, Olivier parle d'oreille, mais vous avez l'oreille musicale ou ça c'est vous avez connu avec le temps, je veux dire, vous avez appris avec le temps d'avoir l'oreille, ou c'est venu plus tôt que prévu?
J'ai commencé tellement petite qu'en fait, je crois que c'est... j'ai appris la musique comme on apprend à marcher, en fait, je pense. J'ai vraiment... J'ai l'oreille absolue, j'entends toutes les notes partout où je vais, même dans les magasins, les musiques de fond, j'entends les notes partout, ça fait partie intégrante de ma vie. J'ai même commencé, même le solfège, beaucoup plus tard, en fait. Pendant 10 ans, j'ai fait de la musique avec une méthode, la méthode Suzuki, qui se base vraiment sur l'apprentissage de la langue maternelle, en fait. Donc, c'est par répétition. Comme on dit à un enfant, dit maman, et que l'enfant va dire maman, maman, et puis va finir par dire maman, et puis à parler. Ben, c'est le même genre d'apprentissage pour la musique. C'est vraiment, le professeur joue par des petits rythmes, des petites choses comme ça, et puis on répète. Et donc, j'ai appris vraiment la musique comme ça, mais j'étais loin, comme ça, jusqu'à jouer des... concerto de Bach à l'oreille sans savoir lire une note de musique. Et puis après, ben, une fois que j'ai décidé, j'avais 14 ans, je pense, quand j'ai décidé, voilà, c'est ça que je veux faire de ma vie, là on m'a dit, bon, ouais, quand même, il va falloir voir un petit peu les bases techniques, et donc je me suis mis un peu au solfège à ce moment-là, et là je suis partie dans des études musicales plus approfondies, mais à la base, c'était vraiment quelque chose de très, très naturel.
Olivier, voilà.
Ben, je pense qu'on est tous les deux un peu des enfants de la balle, quelque part, et mon papa me disait que les couleurs étaient ces notes de musique avec lesquelles il formait des accords, il formait des harmonies, des choses comme ça. Donc c'est un peu le même procédé, mais avec un autre outil.
Oui, vous êtes d'accord?
Ah oui, tout à fait, il y a vraiment quelque chose de vraiment très similaire.
Une corrélation.
Une corrélation avec la musique, la couleur, la peinture, dans l'émotion, etc. Il y a des études d'ailleurs qui définissent des couleurs par rapport aux notes de musique.
Mm-hmm. Oui.
C'est tout à fait ça, oui.
Oui, les notes bleues, les notes jaunes.
Oui, c'est ça. Elles sont même assimilées, je pense, même énergétiquement, même à des chakras ou des choses comme ça. Une couleur, une note de musique pour chaque chakra. Donc, c'est vraiment un grand tout qui peut se rejoindre dans tous les domaines. Oui. On fait le tour de la question.
Qui peuvent provoquer des émotions particulières.
Tout à fait.
Quand elles sont utilisées simplement. Oui.
Vous mettrez une couleur après l'émission.
Voilà.
Aurélie, je vous demande de choisir une chanson qui définit votre univers musical. Vous avez choisi?
J'ai choisi une chanson de mon groupe Otsalai, Kaname. Voilà, qui est mon premier enregistrement avec eux. Otsalai est un groupe qui existe depuis plus de 30 ans, je pense, maintenant. Et moi, je suis la petite dernière arrivée. J'ai remplacé la violoniste Pascal Troussard qui accompagne, donc, qui a créé le groupe avec Monique Gelders. Et j'ai remplacé, voilà, je suis dans le groupe maintenant depuis 4 ans. Et avec beaucoup, beaucoup de bonheur, on a une formation en quartet avec donc Monique Gelders au chant et à l'accordéon, Stéphane Pougin aux percussions et Alexandre Furnel à la contrebasse et moi-même au violon et au chant également. Donc voilà, je vous laisse découvrir mon univers.
On le découvre.
Merci.
Manga brazo e daie, ora ve manga. chayo kogava gea sabe de nada de nada mangero mi te haber manga brache dae ora me manga mangero mi te haber arobia te querer manga brache dae ora me manga mangero mi te haber arobia te querer.
Nous allons passer à la rubrique concerts et réseaux sociaux. Aurélie, des nouveaux concerts ?
Oh là là. Donc il y a plusieurs choses à voir avec le groupe Ochalai. Ben, je vous invite évidemment à aller voir le site internet ochalai.be ou Facebook O-T-C-H-A-L-A-I-I-T-R-E-M-A, Ochalai. Où on annonce toujours nos concerts. Là, on sera en duo à Netten samedi prochain, 28 février, le 27 mars au cabaret chez Émile à Nice-Saint-Vincent. Mais avec, on a une formule donc avec le quartet, donc j'expliquais au chalet, on a une formule avec le quartet et un chœur de 30 choristes. Et là, on sera avec le chœur. On sera à la Bourse à Bruxelles le 4 avril pour la Journée internationale des Roms. Après, bon, ça s'éloigne un petit peu, on arrive au mois de mai et tout ça, je vous invite à aller voir un petit peu. On va passer par Tournai, Ronquière, Bruxelles, Rouvroy. Avec Saltaris, on sera à Jedogne le 24 avril, chez les Baladins du Miroir, dans le cadre du Festival au Chapeau. Et voilà, avec les Baladins du Miroir, dont on n'a pas encore parlé, mais ça ne serait tardé, on sera très très vous à Libramont au mois de mai.
Vous avez beaucoup de cœur. Moi aussi, je vous mets un cœur, voilà, hop là.
Ah, j'ai beaucoup de cœur.
Olivier, vos réseaux sociaux et on peut découvrir votre bande dessinée.
Oui, pour la bande dessinée, je serai présent au mois de mars à la Foire du Livre de Bruxelles. Ce sera le premier jour, le jeudi, où je serai en dédicace à deux endroits dans sur le stand du service du livre luxembourgeois. En fin de matinée et à l'ouverture, je serai d'abord au stand de l'éditeur Novelas. Donc, ça c'est pour Bruxelles. Et autrement, je serai en festival de bande dessinée aussi au mois de mars, plutôt vers la fin mars, et ce sera pour le Festival de bande dessinée qui est à la caserne de Sèvres, près de Liège. Voilà.
Les auditeurs ont entendu. Venez nombreux, chers auditeurs, pour découvrir Olivier Jaminon et Aurélie Goudard.
Oui, bienvenue.
Nous allons passer aux points forts. Aurélie, dites-nous, chacun d'entre vous, vos points forts. Aurélie.
Maman, dans les points forts, je pense que c'est vraiment, justement, parler de cœur, mais c'est vraiment ça, c'est la générosité envers le public, ce qu'on peut dégager, ce qu'on peut offrir, dans la générosité de la musique pour faire du bien, en fait, autour de soi. Je crois que c'est un de mes points forts aussi, mais c'est un peu la rigueur quand même, parce que mine de rien, ça demande voilà, beaucoup de travail de répétition, d'implication. J'aime pas trop l'à peu près, moi j'aime bien quand les choses sont assurées et fluides, donc je fais tout pour que ça soit le plus fluide possible et pouvoir du coup s'exprimer le plus librement. À partir du moment où on a une base solide, on peut se libérer aussi beaucoup plus dans l'émotion.
Tu es d'accord Olivier, ça veut dire ?
Oui, sans doute, oui. Oui, si on y met tout son cœur, on peut exprimer beaucoup de choses, voilà. Et la sincérité est essentielle dans ce genre d'expression, oui, bien sûr.
Olivier, vos points forts.
Je ne suis pas très conscient de mes points forts, si peut-être d'avoir mon point fort, c'est d'avoir quand même fait un parcours d'éducation plutôt classique avant de m'être consacré aux beaux-arts. Mmh. Et puis, je pense que pour raconter des histoires et imaginer des histoires, je pense que c'est lire beaucoup.
Aurélie, voilà. Vous êtes d'accord ?
Ah ben, la lecture est essentielle, oui, en effet. Ça reste encore des histoires qui se perpétuent, qui nous font découvrir en permanence des nouveaux univers. Oui, bien sûr.
Olivier, parlez-nous de votre BD Morgan.
Alors oui, c'est Morgan, hein, pas Morgane, parce que...
Oui, Morgan.
Oui, parce que ça représente, ça caractérise le personnage masculin. Mmh. C'est un projet que j'ai fait en collaboration donc avec Stéphane Van Peuvelt, qui est le scénariste de l'histoire. Et donc maintenant, il y a trois épisodes, donc le cycle est conclu. Le personnage, c'est une sorte d'avatar du scénariste qui représente un peu sa réflexion sur les médias de maintenant, voilà, et sur le monde de maintenant. Et on y apporte tous les deux notre univers, puisque nous avons une dizaine d'années d'écart. Et donc aussi un peu des cultures aussi un peu différentes, voilà.
On peut se procurer où, ce Morgan ?
C'est principalement en festival, ou bien alors c'est sur le site de l'association Novelas.
Et sur Internet, on ne peut pas se procurer ?
Si, c'est ça, sur le site de l'association Novelas, voilà.
Aurélie, un mot, quelque chose à rajouter par rapport à ce que Olivier vient de dire, par rapport à son livre Morgan ?
Ah bien, je vais m'empresser d'aller voir sur le site internet pour découvrir ça, oui.
Autrement, c'est un festival, voilà.
Ben, c'est super, je ne manquerai pas d'aller voir toutes les informations.
Olivier, vous avez dédié un dessin à la naissance de votre fille. Maintenant, elle a grandi, que regard porte-t-elle aujourd'hui sur son père ?
Ouf. Alors, j'avais fait un livre à l'époque de sa naissance. C'est plutôt un livre entier, un livre illustré, où j'avais illustré une petite aventure d'une petite fille, une petite fille japonaise qui n'a rien à voir avec Lucie. Lucie, maintenant, d'ailleurs, vit à Wavre. Voilà, où elle est vétérinaire. Le regard qu'elle porte sur son papa, je pense qu'il y a beaucoup d'affection, ça c'est évident, et puis aussi beaucoup de volonté d'indépendance, parce qu'effectivement il faut laisser partir son enfant quand il a 30 ans passé, voilà. Et donc maintenant, nous la reverrons à Pâques, et on, Et on sera bien content de la retrouver pour des vacances, voilà.
Petits enfants ?
Pas encore, non, pas encore, non. Moi, j'aimerais bien, mais c'est à elle de décider ce qu'elle veut. Voilà, puis une chose à la fois.
Aurélie, à votre avis ? Ce que Olivier vient de dire ?
Je suis touchée d'entendre ça, parce que j'ai moi-même une fille, Léonie, qui a presque 10 ans, qui aura 10 ans au mois de juin.
Voilà.
C'est ma petite merveille, hein.
Voilà. Bien sûr, ça reste.
Oui, donc bien sûr, c'est très touchant de voir, d'avoir écrit un livre pour sa fille. Je trouve ça vraiment... je trouve ça très fort, en fait.
J'avais fait la même chose pour mon garçon, quelque part.
Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, vous avez un garçon.
J'ai aussi un garçon.
Et Aurélie, vous n'avez pas une chanson dédiée à votre fille ?
Ah, oh là là, mon Dieu, si je l'écoutais, alors on serait pas dans le même genre de répertoire, je pense, aujourd'hui. Mais du coup, elle me fait découvrir parfois des choses aussi que moi-même, je n'aurais pas été chercher du tout. Mais, et à l'inverse, elle a baigné toute petite aussi dans plein d'univers différents. Je vois qu'elle est quand même, elle est encore venue me voir là, samedi passé. Lors d'un concert, elle veut encore bien de temps en temps m'accompagner. Plus toujours, parce qu'elle connaît un peu mes spectacles par cœur. Mais elle était encore là au premier rang, à me faire des petits cœurs avec ses mains, avec des étoiles plein les yeux. Donc pour l'instant, j'arrive encore un petit peu à lui apporter ça. On verra plus tard à l'adolescence comment ça se passera.
C'est touchant. C'est bien.
Ah oui, tout touchant.
Regardez sa maman faire de la musique.
Ah oui, ça c'est... je crois qu'elle est baignée dedans aussi. Elle a le sens du rythme, elle chante super bien. Elle est curieuse de la musique. Donc, je suis très fière d'elle, évidemment. Et alors, elle est sur un peu sur nos traces. Son papa est comédien aussi. Et donc maintenant, elle a commencé... ça fait déjà la deuxième année. Elle est dans un cours de théâtre. Elle adore. Avec sa prof, une de mes collègues et amies... des baladins du miroir et de la compagnie Saltaris, Virginie Pierre, qui est incroyable, aussi bien sur scène que comme professeur. Et voilà, et encore quelqu'un qui sait communiquer sa passion, et je vois en tout cas auprès de ma fille que ça marche à du 200%.
Olivier,
je suis tout à fait d'accord avec ce genre de choses. Voilà.
Olivier, vous êtes caricaturiste. Quel personnage avez-vous dessiné ?
Alors, j'étais caricaturiste, je fais toujours du cartoon, je serai d'ailleurs je participe au concours de cartoon de Vianden, et donc il y aura sans doute mes dessins qui seront présentés. J'étais surtout caricaturiste dans la presse pour le Luxembourger Wort au Grand-Duché. Et donc, c'est là que j'ai fait une partie de ma carrière. Et donc, j'ai surtout représenté des politiciens luxembourgeois, des sportifs et des gens de la culture spécifique au Grand-Duché. Et puis aussi, j'ai aussi dessiné des personnalités un peu internationales. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de monde. Dans le sport, dans la culture et dans l'actualité, souvent même plutôt vers le sport que vers l'actualité réelle, puisque il y avait des sujets que on ne voulait pas toujours être traités par la caricature. Voilà.
C'est très large.
Ce que j'ai fait, oui, j'ai fourni plus de 4000 dessins pour. Pour ces journaux-là, voilà.
C'est beaucoup. Aurélie, un mot, quelque chose à rajouter ? Est-ce que vous
voulez dire ? Très, très courageux, très audacieux. Hein. On sait que la liberté d'expression est parfois bien malmenée. Et donc, et on sait à quel point, dans certains événements, la caricature a été maltraitée, et même voire pire, hein, on le sait. Donc, il faut être bien courageux, en tout cas, pour avoir du courage de ses opinions à travers la caricature, oui, tout à fait.
Sauf qu'en Belgique, nous sommes quand même plus gentils que, par exemple, sur la France. Donc, on a moins de... et au Grand-Duché, On était aussi un peu plus soft, je pense.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Olivier, donnez-nous une chanson qui représente votre passé.
J'aurais pensé à Ripples de Genesis.
Et pourquoi?
Parce que c'est un peu nostalgique, voilà.
Vous l'écoutez, Aurélie? Vous avez vos oreilles levées?
Oui, complètement.
On l'écoute.
Bluebells come in every sight. Some are wise and some are the wise. They got pretty blue eyes. For now a man may change. For now a face looks strange. Look strange, look strange. Marching to the promised land, where the honey flows and takes you by the hand, pulls you down on your knees. While you're down, a pool appears. The face in the water looks up, and she shakes her head as if to say that it's the last time you'll look like today. That happens, you know. The water gets below. Seems not very long ago. Lovelier she was than any that I know. Angels never know it's time. Close the book and gracefully decline. The song is bound to tell. My, what a jealous fool is she. The face in the water looks up. She shakes her head as if to say that the bluebells have all gone away.
Thank you. passer à la rubrique ActuVu. Dites-nous un événement joyeux que vous avez marqué récemment, Olivier. Un événement joyeux.
Dans les événements joyeux, c'est sans doute des, une retrouvaille avec des amis. Nous sommes allés manger à bout il y a une semaine, la semaine dernière, voilà. Et on a pu faire. Il y avait un peu de beau temps, on a pu faire une belle balade. Voilà. Autrement aussi, j'ai reçu des autres amis à la maison. Et c'est aussi un peu ce qui est permis par le fait d'avoir un peu plus de loisirs, voilà.
Aurélie, même question, un événement joyeux.
Alors, en fait, moi, je trouve que j'ai assez de chance pour l'instant d'avoir quand même beaucoup d'événements joyeux dans ma vie. Donc, je ne vais pas en citer un en particulier, bien que j'avais justement pensé à ma fille, là, le week-end dernier, qui vient avec ses petits cœurs encore me voir en spectacle. Ça me rend presque euphorique, même. mais j'ai vraiment de la chance de faire ce que j'aime, donc je suis aussi bien entourée sur scène que dans la vie. La vie est belle, en fait.
Aurélie, d'où vient cette aptitude pour le théâtre?
Elle est venue petit à petit, puisque je n'ai pas fait d'école de théâtre, hein, j'ai fait vraiment plutôt des études musicales. Je suis arrivée il y a presque 20 ans maintenant, 19 ans, au Baladin du Miroir, donc une troupe de théâtre itinérante. Je suis arrivée là, j'ai passé des auditions pour le spectacle, à l'époque c'était Tristan et Iseux. J'ai passé des auditions en tant que musicienne et je suis vraiment rentrée comme violoniste dans la troupe. Et puis, c'est vraiment un style de vie qui... Je suivais déjà les Baladins depuis que j'étais toute petite, qui était quand même une compagnie de la région, donc... La maman de mon ami d'enfance travaillait comme secrétaire au Baladin, donc j'avais l'occasion de côtoyer beaucoup la compagnie déjà quand j'étais petite, et ça mettait des étoiles plein les yeux, donc c'est un chapiteau, des roulottes autour, les caravanes et tout le monde, toute cette petite troupe comme ça part de ville en ville apporter le théâtre pour un très très large public, c'est ça l'idée en fait, hein. C'est pas un public de théâtre d'élite, c'est vraiment amener le théâtre pour tout un chacun, et j'étais émerveillée par ça quand j'étais petite, et puis voilà que un jour des auditions ont lieu au Baladin, je suis arrivée et je n'en suis plus partie depuis presque 20 ans maintenant. J'ai quand même fait déjà près de 10 spectacles avec eux, donc c'est à peu près une création tous les 2 ans, et donc voilà, j'ai appris un peu sur le tas, petit à petit, on m'a fait confiance, on m'a donné une ou deux phrases dans un spectacle, et puis encore un peu plus dans le spectacle suivant, et puis on a des metteurs en scène aussi extérieurs, de temps en temps, qui viennent, qui pour finir, ne me connaissant pas, n'ayant pas spécialement d'avis sur ce que je pourrais faire ou non, ou quoi, donc m'ont laissé vraiment un peu libre champ, et... avec qui j'ai beaucoup appris, je pense notamment à Dominique Ferron de l'Infini Théâtre, avec qui j'ai énormément appris. On a aussi Geneviève Knoos, Gaspard Leclerc, Kitani Sen, avec qui on a, qui ont été les différents metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, qui m'ont permis d'avancer, de progresser en parallèle avec évidemment toujours ma musique, mon violon, et pour finir maintenant ça fait un tout, j'ai bien du mal à dissocier le théâtre de la musique.
Mais par rapport à ça, vous faites des contes aussi?
Des contes?
Oui, par exemple le festival de Chigny, vous connaissez?
Oui, tout à fait, le festival de Chigny, on a déjà, on a travaillé d'ailleurs avec...
Je vous ai interviewé, je crois, j'ai reçu une partie de votre troupe l'année dernière, je crois.
Ah oui, c'est bien possible, en effet.
Ça me dit quelque chose, Olivier, quelque chose à dire?
J'imagine effectivement qu'il doit y avoir une ressemblance entre mémoriser un texte et mémoriser une musique, et puis... c'est juste une histoire de, comme on apprend une chanson. J'imagine que c'est juste une histoire d'instrument à utiliser et une façon de poser la voix. Je pense qu'on peut retenir une poésie comme on apprend une chanson. On peut retenir une pièce de théâtre un peu comme on apprend une musique, oui. Donc c'est quelque chose que j'imagine. Mais ça doit être, malgré tout, effectivement, tout un travail de mémorisation. Et donc,
c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que je crois que l'aptitude musicale fait que la musique, je l'entends, je la retiens. C'est vraiment inné. C'est fait tellement partie de moi que j'ai vraiment beaucoup de facilité par rapport à ça. Que le fait d'apprendre un texte me demande quand même plus de rigueur, plus d'études, plus de concentration. Et même sur scène, c'est encore autant je n'ai vraiment plus le trac avec la musique, autant je peux encore la voir sur scène en tant que comédienne, sans doute parce que c'est quelque chose que j'ai acquis plus tard, et donc il reste encore une sorte de fragilité aussi, bien que voilà, je suis une fois que les choses sont en place, par contre voilà, la peur disparaît, on sait ce qu'on a à faire et on fonce et on prend du plaisir. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est quelque chose de plus nouveau pour moi et donc qui me demande quand même un peu plus d'effort, quoi.
Aurélie, combien de représentations avez-vous fait jusqu'à présent?
Alors là, c'est vraiment la question. Je n'ai pas de chiffres à vous donner. C'est vraiment tellement. Ça dépend aussi beaucoup de périodes. En général, on travaille plus en général en printemps, été, puisque c'est la période des festivals, donc là où on peut avoir des semaines et des semaines et des semaines de représentation quasiment sans discontinuer. C'est vrai qu'ici en début d'année, sur les mois de janvier et février, sont peut-être un petit peu plus calmes. Mais bon, l'un dans l'autre, depuis rien qu'au Balada, en presque 20 ans, à raison de 10 spectacles, oui, il y en a déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chalaï, ça tourne beaucoup, enfin voilà, donc c'est énorme, ça prend beaucoup de temps.
Y a-t-il des compositions personnelles dans votre répertoire?
Très peu. J'ai composé déjà, j'avais notamment à l'époque avec le papa donc, de ma fille, qui est aussi donc comédien, comme je disais, metteur en scène, on avait monté Alice au Pays des Merveilles. J'avais écrit, mais bon, c'était pour la maison de la poésie à Namur. Là j'avais composé quand même un peu quelques musiques d'accompagnement comme ça pour le spectacle. Et sinon, je travaille quand même pas mal avec des chanteurs ou chanteuses avec qui parfois j'apporte ma petite touche avec mon violon. Donc là je fais souvent mes compositions. Je fais mes arrangements de deuxième voix ou de mes petites phrases musicales au violon moi-même. Et quand c'est pas le cas, je travaille notamment avec une très talentueuse compositrice qui s'appelle Lina Dan, qui écrit toutes les compositions musicales pour les Baladins du Miroir. Et puis je retrouve en fait, du coup on s'entend très bien, donc je retrouve dans d'autres projets où elle a pu travailler notamment avec un des chanteurs avec qui j'accompagnais et elle lui a fait ses arrangements musicaux avec Bernabé. Donc voilà, on se retrouve quand même sur différents projets où elle compose et c'est du sur mesure, j'ai la chance de la voir. Elle me connaît tellement bien qu'elle fait vraiment des compositions sur mesure pour moi.
Olivier, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Ce que Aurélie vient de dire?
Non, je n'ai rien de spécial à dire à ça. Il faut, les collaborations sont très bonnes et puis il faut effectivement il y a dans la musique il y a des interprètes, il y a des auteurs interprètes, mais c'est pas parce qu'elle n'en a pas fait énormément qu'elle ne peut pas en faire ça. De toute façon ça viendra aussi à l'envie.
Ça viendra de temps.
Ouais, il y a une force, hein. Il y a des gens qui sont vraiment. Chacun a un peu sa place. Et c'est l'assemblage de tout ça qui fait que pour finir, on arrive à un spectacle, à un album, à un concert de qualité aussi. C'est important de pouvoir allier les forces de tout un chacun.
Aurélie, choisissez une chanson qui évoque votre passé.
Oui, alors là, j'ai pensé à une chanson de William Scheller. Alors, pour une fois qu'il ne chante pas, sur, parce qu'il a composé aussi, justement, il a fait des œuvres « Pourquoi tu or ?». Quand j'étais ado, quand j'ai décidé de faire vraiment la musique comme métier, c'est un très beau souvenir pour moi. J'avais une de mes profs d'art, parce que j'étais en école artistique quand même, qui, son fils était violoniste et a travaillé avec William Scheller. J'ai eu la chance d'avoir du coup une copie des partitions et je me souviens que chez moi, je mettais l'album en boucle avec les partitions et je jouais sur tout l'album dans mon salon, dans ma chambre. Et voilà, donc le morceau que j'ai choisi, c'est un des morceaux comme ça que j'ai pu jouer quand j'étais ado, à tue-tête, je prenais mon violon et je jouais des heures là-dessus.
Olivier, vous connaissez
William Scheller, c'est un très bon choix. C'est très bien.
Nous allons passer. Nous allons passer à la rubrique hommage. Citez chacun trois personnes qui ont cru en vos projets. Aurélie, on commence par vous. Trois personnes.
Alors, mes parents, évidemment, qui m'ont toujours soutenue, aussi bien ma maman que mon papa, dans mes choix de vie, qui n'étaient pas forcément, je crois que, voilà, ça peut effrayer parfois d'avoir son enfant qui dit « Ah, je vais être artiste ». Et eux m'ont toujours dit « Il vaut mieux une bonne violoniste que... » un mauvais médecin, donc voilà, donc ils sont toujours là, ils viennent me voir régulièrement dans mes concerts, c'est mes premiers fans, donc mon papa, ma maman, ma fille qui vient toujours, comme je vous dis, les étoiles plein les yeux voir mes concerts, qui me choisit quand on doit faire un travail pour l'école, elle avait dû faire un petit travail comme ça, d'expliquer le métier de quelqu'un, et elle elle avait présenté tout un panneau et tout ce que je faisais en disant moi je veux être violoniste, chanteuse et comédienne comme ma maman. Et une personne que je voulais aussi encore remercier aussi, mais c'est ma meilleure amie, Gaëlle Marquès, qui est toujours présente aussi dans mes choix depuis qu'on a 13 ou 14 ans. Elle est toujours présente, elle vient aussi, elle est toujours assistée à tous mes concerts. Donc voilà, j'ai de la chance d'être bien entourée, bien soutenue.
Olivier, trois personnes.
Il y a d'abord ma compagne, Gabrielle, qui m'a soutenue dans tous les moments, bons ou mauvais. Donc ça, c'est très important. Il y a Stéphane, avec qui je collabore pour le moment depuis un certain nombre d'années. Et puis papa, pour toute l'inspiration, pour les moments où je peux faire où je peux presque utiliser sa main, ouais. Alors qu'il est disparu, parce que, on va dire, il est quelque part dans ma tête et il me donne beaucoup de conseils encore. Et puis voilà, oui, donc j'en ai cité trois. Voilà.
Merci à vous deux pour ces vibrants hommages. Nous allons passer à la rubrique Animaux. Proposez-moi chacun un animal qui définit votre caractère. Olivier ?
Je vais donner l'animal qu'on m'a attribué comme totem chez les scouts quand j'étais enfant. Et c'est de la loutre.
Pourquoi ?
Ah, la loutre, c'est toute une histoire parce que c'était. Parce que je faisais beaucoup de natation à l'époque. Et donc j'étais tout le temps dans l'eau. Et aussi parce que j'étais un peu vif comme une anguille, et puis oui, et puis il y a encore d'autres sujets, mais c'était et parce que j'étais plutôt joyeux comme ça et spitant, voilà.
Aurélie, même question, quel animal?
Alors c'est marrant parce que moi, mon animal totem, on m'avait dit un jour, je n'ai pas fait les scouts ou quoi, mais on m'avait dit un jour que mon animal totem était, par rapport à mon prénom, c'était le boa. Donc il enroulait ses proies avant de dire qu'il y a bon entendeur. Mais par contre, moi je ne me retrouve pas tellement là-dedans. J'hésitais un petit peu entre... Je partageais un peu un dilemme entre chien et chat. Chien, même chien-loup un peu, parce qu'il y a une sorte de loyauté... la notion de meute, les amis, l'affection, la communication, la protection, la compassion, voilà, solidarité. Et c'est un peu, voilà, il y a cet aspect-là du chien loup comme ça qui est très important pour moi. Et en même temps, le dilemme avec le chat parce que il y a une notion de magie, de curiosité, l'observation comme ça, sans bouger, l'indépendance, du côté un peu surnaturel comme ça du chat magique qui me plaît bien aussi. Et d'ailleurs, je suis entourée à la maison d'un chien, de deux chats, et ils sont tous aussi intéressants dans leur caractère les uns que les autres.
Merci à vous. Olivier, quel dessinateur appréciez-vous particulièrement son travail?
Le premier album de bande dessinée que j'ai eu à moi, c'était Olivier Rameau et Colombe Tirdel. C'était le Merveilleux Voyage, c'est le dessinateur d'Annie. C'est le premier album que j'ai eu. Je pense que c'était une histoire de j'étais malade en vacances et mes parents m'ont acheté un album. Ouais. Donc et après ça, il y a eu d'autres dessinateurs. Je suis passé à De Rib et de tous les auteurs de ma jeunesse. Voilà.
Voyez-vous dans la province de Clermont un jeune talent du dessin?
Il est plus jeune que moi, mais il est déjà affirmé. C'est Stédo. Voilà, qu'on connaît bien. Il est fort talentueux, et c'est un grand professionnel. Ouais. Autrement, dans les jeunes talents, je vais parler de... Il faut que j'arrive à retrouver son nom. Qui m'avait fait mes couleurs, mais je ne sais pas.
On t'en reviendra.
Voilà.
Aurélie, quelque chose à rajouter? Ce que Olivier va dire?
Ah ben là, j'ai plongé aussi en enfance là, avec Olivier Rameau. J'avais le même album à la maison. Donc ça m'a fait tout d'un coup plein de souvenirs.
Olivier, voulez-vous transmettre votre passion ?
Bien sûr, oui, oui. Oui, c'est évident. Oui, j'aurais bien voulu enseigner, ça ne s'est pas fait. Mais on peut toujours le faire, oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai déjà eu l'occasion de participer à des conférences. Je rencontre pas mal de jeunes dessinateurs dans les salons. Souvent, oui, ben j'ai le dernier salon où j'ai participé à Saint-Aude. Effectivement, une jeune fille est venue me trouver pour discuter là-dessus. Et effectivement, j'ai essayé de lui donner de bons conseils. Oui.
Quel BD actuel vous appréciez, Olivier ?
Actuel, c'est difficile. Non, c'est difficile parce qu'on en produit beaucoup. Je ne suis plus trop dessus. J'ai vu des bandes dessinées. C'est souvent visuellement que je suis attiré par une bande dessinée. Si, j'ai même il y avait une histoire. J'ai même apprécié, parce que j'ai dû choisir des mangas pour mon fils. Et il y avait une série que j'aimais bien avec des elfes, mais je ne sais pas bien le nom. Donc, mais je suis ouvert à un peu tout. C'est souvent visuellement que je les reconnais. Et souvent, je plonge sur une bande dessinée pour une image, un peu comme on choisissait un livre pour la couverture, ou comme je choisissais souvent un disque pour la pochette.
Aurélie, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça ?
Non, voilà, j'écoute attentivement.
Olivier, dites-nous une chanson qui représente votre futur.
Citer un groupe que j'ai écouté ce matin, et je pense ça représente plutôt un peu mon passé malgré tout aussi, mais le sujet fonctionnera. C'est Grupo Sportivo, le groupe, et le titre c'est Future Love.
Pourquoi? Voilà.
Bon, parce que
voilà. Je vais l'écouter. Aurélie, vous êtes d'accord? On l'écoute?
Bien sûr, avec plaisir.
Vous avez d'autres projets en cours ?
Oui, il y a encore des projets, parce qu'on n'a jamais assez. Oui, je travaille aussi avec une compagnie aussi, Arnomade, qui est basée à Lessines. On sera à la citadelle de Namur fin août, avec un spectacle qui s'appelle Charlatan imaginaire. Dans les projets en cours, ben, peut-être un nouveau spectacle cette année-ci avec les Baladins, à voir, hein, c'est encore un peu en train de se discuter, de s'imaginer, et sinon, ben, voilà, on continue avec le spectacle actuel des Baladins du Miroir qui s'appelle Soudain la pierre, c'est une histoire sur le facteur cheval, donc il a créé un palais incroyable avec ses pierres, etc., en Drôme. Et puis on continue avec Ocalaï, Saltaris, à Paris, on fait aussi beaucoup d'événements privés, même pour des anniversaires, des mariages, des inaugurations, dont on peut accompagner certains artistes d'ailleurs aussi pour le début d'une exposition, la fin, pour le décrochage d'une exposition. Et puis sur le côté aussi, hein, on parlait de transmission tout à l'heure, Olivier parlait de transmission. Je donne toujours aussi des cours, je donne des stages aussi avec Monique Gelders, donc qui est ma comparse dans les baladins, dans le Chalaï, dans Saltari, toujours sur la musique des Balkans. Elle transmet donc des chants, et moi je transmets donc l'aspect musical. Hein, je prends des violonistes. On a fait un stage il y a quelques mois à Chassepierre, et il y en a un qui sera redonné ici à Chassepierre le premier week-end de juillet, donc de violon et chant Balkan. Donc si y a des amateurs, vous êtes les bienvenus.
Victor, écoute, Olivier.
Effectivement, c'est pas si loin. Peut-être que je ferai le chemin pour aller jusqu'à Chassepierre. Voilà.
Ah, ben voilà, bienvenue Olivier, vous chantez avec nous.
Olivier, Aurélie, comment se passe le travail en groupe ?
Le travail en groupe, c'est très porteur en général, c'est d'écouter les idées de chacun, de découvrir du coup des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, c'est très riche. Et puis essayer aussi les idées des autres, essayer nos propres idées, quitte à parfois se tromper, mais c'est pas grave, tout le temps qu'en groupe on reste dans la bienveillance, on se dit qu'on peut avoir toujours droit à l'erreur, mais il faut en tout cas essayer, parce que si on n'essaye pas, on n'avance pas non plus. C'est très porteur de travailler en groupe, même si parfois, il y a des désaccords, donc il faut parfois un peu savoir mettre de l'eau dans son vin. Moi, je ne supporte pas, j'essaie toujours d'éviter les tensions, parce que j'ai vraiment horreur du conflit. Donc, j'essaie toujours de rester dans le calme, parfois faire un peu l'escargot et la rentrer dans ma coquille pour pouvoir mieux revenir plus posément, plus calmement. Mais c'est toujours avec toujours beaucoup de diplomatie et tout ça, mais en général, c'est vraiment quelque chose de très porteur de travailler en groupe.
Vous êtes d'accord, Olivier ?
Oui, bien sûr, le groupe est utile. Disons que dans le dessin, on est plutôt un peu plus livré à concentré sur soi-même et la feuille, mais effectivement, je travaille facilement aussi en équipe. Et je trouve que la musique des Balkans a tout pour exprimer beaucoup d'émotions et aussi pour être effectivement entraînante.
Ah ça, c'est vraiment... c'est une musique qui transperce, qui transperce.
Voilà. Qui fait bouger les jambes.
Puissant. Oui, tout à fait.
Voilà.
Aurélie, qu'est-ce que vous dégagez lorsque vous êtes en live ?
Je pense que vraiment c'est la joie, c'est le bonheur. Moi j'ai l'impression d'irradier comme ça quand je suis sur scène. Je me vois comme un espèce de, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un soleil intérieur comme ça, que j'essaye tant bien que mal, en tout cas le plus possible, de pouvoir transmettre aux gens en face de moi, mais même à mes collègues autour. C'est vraiment la joie d'être là, et ça m'apporte autant, en fait, le fait d'offrir comme ça aux autres, ça m'apporte autant à moi qu'aux spectateurs.
Aurélie, quelle est la différence entre chanter et jouer au théâtre ? Les émotions sont-elles les mêmes ? C'est la même chose ? Quand vous chantez ?
Comme je disais un peu tout à l'heure, une fois que le spectacle est rodé, ça, oui, c'est tout à fait... La même sensation de joie, d'avoir quelque chose le spectacle est mis en place et qu'on peut y aller à fond, que ce soit la musique ou le théâtre, c'est vraiment assez similaire. Maintenant, pour moi, la différence, c'est mon violon m'apporte une forme de protection. J'ai quand même un support comme ça avec moi qui est fiable, qui est quelque part technique, par laquelle je vais passer beaucoup d'émotions. Mais par exemple, contrairement à la voix, Il y a toujours la crainte. On se sent tout nu, en fait, quand on n'a pas... Mmh. Moi, je me sens toute nue quand je n'ai pas mon violon, comme ça. C'est un peu la crainte du trou de mémoire, hein, le fameux trou sur scène où on ne sait plus ce qu'il faut dire. Ou quand il y a trop d'émotions, par exemple, dans le chant, c'est très différent. Parce que d'avoir parfois dû jouer aussi, notamment lors de cérémonies d'enterrement, de cérémonies d'adieu... pour parfois pour des proches, parfois des personnes moins proches, mais je sais que avec mon violon, je sais quand même toujours continuer à transmettre l'émotion et y arriver, tandis que parfois le chant, j'aurais été incapable, par exemple, de chanter quand je suis trop dans l'émotion, on perd sa voix, ça tremble, voilà, il y a un petit peu cet aspect-là que le violon apporte, une espèce de sécurité, de stabilité. Voilà,
sans,
on est un peu à découvert.
Olivier, vous ajoutez?
Non, effectivement, on doit. Il y a sans doute le côté être sur scène. On se dévoile un peu plus que. Mais je pense aussi que la raison de l'artiste, c'est de devoir, c'est d'essayer de se dévoiler un peu dans tout ce qu'on produit. Et donc il y a une nécessité de sincérité et d'expression qui est le fondement de la recherche et de l'expression, enfin de ce qu'on a envie de faire.
Si aussi c'est effectivement dans la musique est très révélatrice de notre propre émotion, que au théâtre aussi le fait d'interpréter un rôle est très intéressant, parce qu'on peut être à chaque fois quelqu'un de différent pour chaque personnage, et chaque personnage raconte sa propre histoire. Le fait de transmettre aussi des histoires qui ne nous appartiennent pas, mais qui font rêver, et c'est très puissant.
C'est quelque chose que je retrouve aussi dans... j'adapte un scénario ou quand j'interprète moi-même des personnages, on serait étonné de nous voir grimacer derrière notre planche à dessin,
derrière le crayon,
parce que effectivement souvent on fait des grimaces dans le miroir ou on essaie de d'interpréter d'abord le personnage à l'intérieur avant de l'interpréter par son dessin. Oui, voilà.
Vous ressentez l'émotion alors?
Bien sûr.
Beaucoup.
Bien sûr. Oui, je suis ça, un émotif. Oui. Ben, on ne fait pas artiste si on n'est pas émotif. Ça, c'est pas possible.
Hum. Voilà. Oui, c'est sûr.
Aurélie, une chanson qui évoque votre futur.
Oui, j'ai choisi une chanson de Sylvia Pérez Cruz, qui est une chanteuse espagnole, qui vraiment, pour moi, évoque un peu la puissance, l'engagement, la folie. C'est toujours quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller pour le futur et toujours dans tout ce que je fais. Chanson un peu engagée, puis qui représente en plus pour moi un peu une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Donc voilà, j'ai choisi cette chanson, Lida.
Nous allons la passer.
Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma. Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, y tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma. Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda en tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina. Quisiera yo besarme, chita, tú bien sabes lo mucho que te quiero. Por eso te ruego, no me hagas sufrir más.
Thank you.
mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud tan tesora, todo mundo de esplendor, y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud tan tesora, todo mundo de esplendor, y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina, quisiera, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, y por eso te ruego no me hagas sufrir más. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina, quisiera, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego no me hagas sufrir más.
Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. On redit de nouveau dates de concerts et réseaux sociaux et on peut trouver votre livre, Olivier.
Bah, disons au niveau des réseaux sociaux, on trouve principalement sur LinkedIn et puis sur Facebook, à mon nom, et puis j'ai aussi une page. Autrement, donc je serai présent donc à la Foire du Livre de Bruxelles, au Festival de bande dessinée de Sèvres, près de Liège. Et puis, plus tard, il y a encore des choses. On me retrouvera aussi à Bastogne pour un prochain festival de la caricature. Mais ça, c'est plutôt pour fin d'année. Il y a encore d'autres salons qui viendront sans doute.
Aurélie ?
Oui, donc pareil, hein, il faut un petit peu aller voir les pages internet, donc il y a saltaris.com, otchalai.be, lesbaladinsdumiroir.be, arnomade.be, les Facebook d'Otchalai, la compagnie Saltaris, les baladins, Arnomade, pareil, c'est sur Facebook, ma page Facebook aussi, Aurélie Goudard. Et pour les dates, le 28 février à Néthen, Otchalai en duo. Le 27 mars avec le chœur à Nice-Saint-Vincent, la Bourse de Bruxelles le 4 avril en quartet et Saltaris le 24 avril à Jodogne. Et puis pour ce qui est de Libramont et dans les environs, je crois que donc fin mai, on sera avec les Baladins du Miroir avec Soudain la Pierre. On sera du côté d'Urbuy, je pense, fin juillet, début août. Et Arnomade fin août à la Citadelle de Namur.
Aurélie, vous êtes partout.
Ah bah oui, évidemment, on sillonne les chemins, les chemins de traverse à travers la Belgique, la France, on va partout.
Merci à Olivier Jaminon et Aurélie Goudard d'avoir accepté mon invitation et merci aux auditeurs de Radio Sud. Un mot à dire, Olivier ?
Non, c'était très plaisant et puis... effectivement, c'est une conversation. C'est une façon de faire de la conversation, voilà.
Aurélie,
merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'avoir fait la connaissance d'Olivier.
Ben ravi aussi.
Donc voilà, et au plaisir, de vous retrouver ici et là, sur les planches, sous les chapiteaux, dans les jardins, voilà.
Il va venir vous voir, n'est-ce pas, Olivier?
Peut-être. Voilà.
Olivier, je vous demande de choisir une chanson pour conclure l'émission.
Je vais mettre Machiavel Fly.
Voilà. Pourquoi?
Parce que j'aime bien l'idée de voler.
Merci aux auditeurs de Radio Sud. Radio Sud, la bonne attitude. Merci.
Merci
à vous. Au revoir. Au revoir.
Fly, wanna fly? It's been a long time, I'm waiting for you tonight.